Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour une émission consacrée ce soir à Élisée Reclus, promoteur d'une géographie sensible, mais également écrivain et militant anarchiste. Le 4 juillet 1905, Élisée Reclus disparaissait à l'âge de 77 ans, provoquant à travers le pays une immense émotion à la hauteur de sa célébrité. Mais cette popularité découlait aussi de l'aura de sa matière, la géographie, à une époque où connaître et parcourir le monde était bien plus ardu qu'aujourd'hui. Cette science avait de quoi faire rêver. Jules Verne, d'ailleurs grand lecteur d'Élisée Reclus et mort 3 mois seulement avant lui, a joué de cette dimension imaginaire, en même temps que scientifique, que le 19e siècle a donné à la géo. Enfin, Reclus était un homme pleinement engagé dans le combat des idées. Cela a aussi contribué à ce que naisse un mythe autour de sa personne. Nous revenons ce soir sur cette vie et cette œuvre tous azimuts.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Pour parler de lui, nous sommes avec vous, Isabelle Louviot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'autrice d'un ouvrage publié en 2022 par les éditions du Tripode, intitulé « Élisée Reclus, penser l'humain et la terre », livre dont vous signez le texte principal, tandis que Georges Peignard en a fait les illustrations. Et puis on trouve également un certain nombre d'extraits de textes d'Élisée Reclus. J'imagine que vous avez voulu, en quelque sorte, lui laisser à certains moments la parole.
Oui, j'ai envie qu'on entende sa voix et qu'on entende une voix à la fois plurielle, parce qu'il a écrit toutes sortes de choses, et en même temps unique, parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai lu ses textes, c'est que, quel que soit le type de texte, que ce soit sa correspondance, ses écrits scientifiques, ses écrits politiques, ses récits de voyage, j'entendais toujours Élisée Reclus, une voix, vraiment.
Alors on entendra un peu sa voix, évidemment pas sa voix à lui,
dommage,
mais sa voix à travers des lecteurs et des lectrices au cours de cette émission. Vous savez, si vous êtes un petit peu familière de cette émission, qu'on commence toujours par le commentaire d'une carte préalablement postée sur Twitter ainsi que sur notre site. Cette carte, on la demande aux invités. Et vous ne nous avez pas proposé de carte, vous nous avez proposé autre chose.
Oui, j'ai proposé une image d'un globe, qui est un projet de grand globe que qu'Élisée Reclus a eu à la fin de sa vie. Il avait pas loin de 70 ans. Projet d'un très grand globe qui aurait été exposé à l'exposition universelle de Paris en 1900 et qui avait un diamètre incroyable, 160 mètres de diamètre, avec à l'intérieur un autre globe dans lequel on aurait pu circuler avec des bibliothèques. Et parce que, en fait, et ça c'est une obsession qu'il a eue toute sa vie, c'était de représenter le plus justement possible la Terre. Et ben, on aura sûrement l'occasion d'en parler, mais la cartographie, dans le fait de mettre à plat cette Terre qui est ronde, trahissait d'une certaine façon la Terre, son objet d'étude. Et donc il a eu pour lui, la seule représentation possible et fidèle, c'était celle d'une sphère comme la Terre.
Donc la précision est importante pour Élisée Reclus dans la présentation du terrain.
Ouais, la précision de l'échelle. Et là, en fait, bon, une carte, c'est une convention et il s'en méfiait énormément. Et pour lui, il avait envie que l'œil de chacun, parce qu'il était très attaché à une vulgarisation de la géographie, puisse voir la Terre de la façon la plus fidèle possible. Pour autant, il a réalisé de nombreuses cartes. Hein. Il a réalisé avec le cartographe Charles Perron près de 7000 cartes. Donc, c'était aussi un cartographe. Mais cette représentation en 3 dimensions était celle qu'il préférait. Voilà.
Alors, il faut quand même dire, Isabelle Louviot, que ce projet fou d'un globe de 160 mètres de diamètre, il a failli voir le jour. Ça n'est pas simplement une vue de l'esprit d'Élisée Reclus.
Oui, il y a eu des dossiers, il a constitué un projet, il y a eu des budgets qui ont été faits, enfin, il y a eu toute une documentation énorme. Louis Bonnier, qui était architecte, a dessiné ce globe. Il y a eu plusieurs projets qui se sont succédés avec des budgets qui ont décru au fur et à mesure puisque ça paraissait trop fou. Et finalement, ça n'a pas vu le jour. Voilà. C'était une époque aussi où il y avait beaucoup de projets comme ça, de ce type, hein. Mais la singularité du projet d'Élisée Reclus, c'était d'allier, justement, la vulgarisation Et donc le fait de pouvoir être, que ce globe puisse être vu par le plus grand nombre et une grande rigueur scientifique, notamment sur les échelles.
Une dimension artistique aussi peut-être.
Pas vraiment. C'était vraiment la rigueur scientifique. Et le respect des échelles, c'est-à-dire échelles au niveau du sol et aussi des altitudes.
Donc c'est un homme, Élisée Reclus, qui semblait vraiment habité par la géographie, qui s'est posé beaucoup de questions théoriques aussi sur la géographie, comment écrire le monde, comment représenter la Terre, vous le disiez à l'instant Isabelle Louviau, comment transmettre aussi la géographie au plus grand nombre. Qu'est-ce que ça nous dit de cette époque historique aussi, où la géographie, comme je le disais dans mon introduction, a une espèce d'aura qui est aussi l'aura du voyage, qui est l'aura du rêve, qui est l'aura de la technologie qu'on lit aussi dans Jules Verne.
Oui, alors il y a Jules Verne, c'est une époque aussi d'ouverture sur le monde, hein, les empires coloniaux, le chemin de fer, l'édition. Et il y a un éditeur qui va beaucoup compter pour Élisée Reclus, qui est Hachette et qui développe, est en train de développer un catalogue d'ouvrages de géographie, de revues qui contiennent des récits de voyage. Enfin, le monde, il y a un appétit du monde énorme, un appétit scientifique bien sûr, mais aussi un appétit, on va dire, du grand public, comme on dirait aujourd'hui, pour l'ailleurs. Et Élisée Reclus va être une sorte d'ambassadeur magnifique hein, de cet ailleurs et de cette connaissance de l'ailleurs avec une grande rigueur scientifique et aussi une grande qualité d'écriture.
Un ambassadeur et un modernisateur de sa matière, est-ce qu'on peut dire cela ?
Alors, il avait une conception de la géographie. Bon, la géographie universitaire est balbutiante. Elle est enseignée un petit peu dans les écoles primaires. Mais elle n'est pas aussi constituée que l'histoire. Et Élisée Reclus, lui, il avait une conception très très ouverte et très décloisonnée de la géographie. C'est-à-dire que c'était une discipline, un savoir qui se nourrissait, bien sûr, de l'histoire, mais aussi de l'anthropologie, de toutes sortes de connaissances. Et il était assez méfiant par rapport aux experts et aux expertises trop pointues. Il avait vraiment une envie que cette discipline soit la plus ouverte possible. Voilà.
C'est la grande époque aussi des sociétés de géographie, des communautés de géographes.
Tout à fait. Louis Hachette, Émile Templier qui reprend la direction d'Hachette sont membres de la société de géographie. Donc il y a un attachement vraiment à cette connaissance. Lié aussi beaucoup aux voyages et aux différents explorateurs hein, qui entreprennent des voyages pour repérer le monde, le comprendre, le mettre en carte. Et à ce sujet d'ailleurs, Élisée Reclus, il se moquait un peu des géographes de cabinet, il les appelait comme ça. Il a voyagé et pour lui, la géographie, il y a une approche presque très physique du paysage et du monde. Il faut y aller, il faut le voir, il faut sentir les choses. Et c'est pas juste en étant dans son bureau
à regarder des cartes, justement.
Voilà, il faut se nourrir bien sûr de textes, mais il faut aussi voir, sentir les paysages, les villes, les campagnes, les hommes dans ces paysages. Et tout ça, voilà. Et après, lui, il a mis tout ça en mots dans son œuvre géographique. Mais il était très attaché à cette double dimension, à la fois, j'ai presque envie de dire, sensuelle et physique de la Terre. Et voilà. Et puis aussi érudite, puisqu'il avait une grande connaissance de ce qui avait été écrit avant lui.
Et cela passe aussi par un rapport à la poésie et à une façon d'écrire. On a dit qu'on allait écouter Élisée Reclus, ou du moins sa prose, un premier extrait.
Ceux qui n'ont pas vu la splendeur des nuits tropicales ne peuvent se figurer combien sont douces les heures passées sous la lumière voilée qui descend des étoiles. Ils ne savent pas à quel degré peut s'élever la jouissance exquise de l'être physique, caressé par la limpide atmosphère qui le baigne. Tous les sens sont flattés à la fois, et chaque mouvement est si doux à faire qu'on pourrait se croire dégagé des chaînes de la pesanteur.
Un extrait lu par Annie Roman. En écoutant cet extrait, on se demande presque si on a affaire à un géographe vraiment, ou si c'est l'œuvre d'un écrivain, ça c'est sûr, mais d'un poète aussi peut-être, Isabelle Louviot.
Ah oui, oui, c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment un poète, c'est-à-dire qu'il était charmé par ce qu'il voyait, et il charmait aussi par les mots qu'il utilisait pour dire ce qu'il voyait. Et là, je ne me trompe pas, ces voyages à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe, enfin, le récit de ce voyage.
C'est ça.
Donc il découvre, il sort d'Europe, il découvre la nature tropicale dont il parle, et il est enchanté, vraiment. Et tout ce texte qui est magnifique, c'est un récit de voyage qui transpire, on va dire, la sensualité, l'émerveillement qu'il a à voir. Et en même temps, alors là, évidemment, et puis en plus la lecture a beaucoup accentué la poésie et la charge sensuelle du texte, mais il voit aussi, en géographe, il voit des paysages, il voit des aménagements dans les paysages, et c'est ça que je trouve très, enfin une des choses, parce que je suis évidemment très admirative d'Élisée Reclus, il allie en permanence la science et le sensible. Et il n'a pas du tout, il n'est pas du tout encombré par des cloisonnements ou par des envies de faire des catégories. Il est un, en fait. Quand il écrit le monde, il est un.
Et quand il le voit aussi, parce que c'est vraiment la vue qui est le sens primordial chez Élisée Reclus.
Ouais. Il avait une façon et ça se sent dans ses descriptions, hein, à la fois de saisir un ensemble, je pense à une montagne, qu'importe quel type de paysage, ou le Mississippi, il saisit une immensité, il saisit une grandeur, et en même temps, il est capable de rentrer avec un détail de couleur, d'impression, d'odeur parfois, assez étonnant, qui nous font vraiment percevoir physiquement. Quoi, vraiment.
D'ailleurs, un certain nombre d'artistes visuels ne s'y sont pas trompés, qui étaient ses amis. Je pense à Courbet, Nadar aussi. Courbet qui était, je crois, son voisin, c'est ça,
oui.
À un moment donné.
Alors en fait, Courbet, donc ils ont partagé une expérience, enfin, ils l'ont pas fait ensemble, enfin, ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là, mais ils ont été tous les deux communards et tous les deux exilés en Suisse. Et donc ils se sont retrouvés voisins à Vevey en Suisse. Alors je ne sais pas jusqu'où ils se sont vraiment rencontrés, mais Courbet dit simplement d'Élisée Reclus qu'il le voit tout le temps travailler, que le matin, voilà, il voit de la lueur chez lui, il travaille. Le soir, la lumière s'éteint tard. Et il a un regret, et moi aussi, et je pense que beaucoup de gens aussi ont ce regret, c'est de ne pas avoir pu faire le portrait d'Élisée Reclus. Il parle de la grandeur, de l'air de grande, ou je sais plus comment c'est.
Sa face avait un air de grandeur.
La grandeur de sa face, voilà. Et je pense que quand tout à l'heure je disais il est un, je pense que physiquement aussi, alors c'est peut-être mon fantasme à moi, mais physiquement aussi, je pense qu'il portait toute la lumière et la grandeur de son être, on va dire. Il était tout petit, il mesurait 1m65, mais il était quand même grand.
Ça, on ne le voit pas sur la couverture du livre que vous avez donc publié au Tripode et qu'a illustré Georges Peignard. C'est un portrait de lui avec un regard très intense, et puis le sentiment d'un regard visionnaire aussi. Vous regardez ce portrait, que vous pouvez nous décrire si vous le souhaitez, comment est-ce qu'il retrace un petit peu l'homme que vous avez imaginé en écrivant ce livre? Autrement dit, comment sa personnalité, vous pourriez nous la décrire?
Je vais commencer déjà par dire que quand Georges Peignard, qui a fait ces illustrations que je trouve magnifiques et qui font vraiment partie, c'est son regard sur Élisée Reclus. Il n'a pas du tout illustré mon texte. Il a créer des images à partir de ses lectures d'Élisée Reclus. C'est un grand lecteur, donc il est parti là-dessus. Et la première fois, je me souviens, quand j'ai découvert ce portrait sur mon ordinateur, j'ai été saisie, bien sûr, par ce regard. Et en fait, assez vite, ce qui m'est venu, c'est que, et c'est ça qui m'a touchée aussi beaucoup, c'est que c'est un visage, mais c'est aussi un paysage. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des algues, sa barbe, j'ai vu des algues, j'ai vu une plaine pour son front, un petit peu ridée.
La texture, en effet, peut faire penser.
Il y a de la terre.
Exactement, à de la
terre,
oui. Il
y a quelque chose de très. Enfin, on sent la terre, quoi. Il a un regard que je trouve bon, qui est très clair. Il avait les yeux très clairs. Il a quelque chose de visionnaire, et c'était un visionnaire. J'ai tas d'exemples de choses qu'il a vues.
Par exemple, qu'est-ce qu'il a
vu ? Alors là, je saute. Voilà, on fait des grands sauts comme ça. Alors, l'exemple qui me vient tout de suite, c'est donc à la fin de sa vie, donc il écrit une œuvre qui est L'homme et la terre, donc 6 volumes, on a voilà. Et dans un des volumes, il évoque l'émergence, bon, de la puissance américaine, elle émergeait clairement, mais aussi de la puissance russe et la confrontation entre les deux. Et il meurt en 1905. Alors, je vais très vite en disant qu'il a l'intuition de l'antagonisme de la guerre froide. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voit, il a une vision du monde, des rapports de force dans le monde. Ça n'est pas quelqu'un qui était pris de la beauté des paysages. Il voit aussi les choses sérieuses, les affrontements, et il voit l'émergence du duopole américain et entre les États-Unis et la Russie. Voilà.
Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont visionnaires et qu'en effet on pourra distiller au fur et à mesure de cette émission. Votre livre, Isabelle Louviot, c'est une vie et une œuvre. C'est vrai qu'il faut comprendre un petit peu la biographie d'Élisée Reclus pour comprendre aussi le géographe qu'il a été et ce qu'il a conduit à écrire ce qu'il a écrit et de la façon dont il l'a fait. Un peu de biographie et revenir un peu à l'enfance. Il naît en 1830 à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Il faut parler de ses parents et notamment pour commencer de son père qui est un personnage un peu tourmenté, il faut quand même bien
carrément.
Le dire. Carrément tourmenté.
Ouais, ouais. Donc son père était pasteur. Bon, c'est donc une famille protestante. Le père pasteur qui se pose beaucoup de questions par rapport à son à sa place dans la société, le rôle qu'il a à jouer, ce qu'il a le droit de faire, de pas faire. La façon d'exercer ce métier de pasteur, et c'était quand même quelqu'un de très, très dur, très exigeant, à commencer par lui-même, mais aussi avec ses enfants.
Oui, à la limite de l'autoflagellation.
Oui, complètement, complètement. Et donc, en un mot, je dirais que c'était quelqu'un de pas rigolo du tout. Alors que Élisée Reclus, il peut être assez drôle. Donc, quelqu'un de très austère, très dur. Qui voulait d'ailleurs que ses deux premiers fils, Élie, le frère aîné d'Élisée et Élisée, soient pasteurs. Tous les deux ont dit non, ont refusé. Et on imagine avec l'autorité dont on sent le père chargé, que ça n'a pas dû être une mince affaire que de dire non à ce père.
Et en même temps, Élisée Reclus, on sent qu'il a gardé un peu de la rigueur morale
bien sûr.
De son père. Son père est allé un petit peu dans l'extrême de la morale, qui était la morale protestante. Mais Reclus a une morale
oui.
vis-à-vis de la société,
oui.
lui-même aussi.
Il a une éthique très forte. Il a une rigueur avec lui-même, il a un sens de l'acte, un sens des mots. Quand il répond à un journaliste qui le critique, il choisit chaque mot compte. Il a une exigence extrême, mais elle est pas mortifère comme celle du père. Elle est au service d'un idéal, moi je la trouve belle, elle peut être aussi, il a de la joie, sa correspondance j'aime beaucoup ça, notamment le premier tome, sa correspondance, il correspond beaucoup avec sa famille, il est très drôle, il est très, très vif, vraiment. Et donc là, s'il a gardé une rigueur, on va dire, éthique de son père, il a lâché toute l'austérité pas marrante, quoi.
Il a lâché aussi un peu la Bible, hein, on va
il
le voir.
Il a lâché complètement la Bible.
Parce que la Bible lui donnait la nausée. Enfin, c'est son père qui lui donnait la nausée à travers la Bible. Du côté de sa mère, il y a aussi des choses à dire. Elle est enseignante et elle prend en charge vraiment la famille. Parce qu'il faut raconter que la rigueur morale de son père est devenue un peu un handicap parce qu'il a été mis au banc de l'Église, parce qu'il était trop rigoureux pour l'Église elle-même, protestante. Et donc, c'est sa mère qui doit faire vivre la famille de 14 enfants quand même.
Ça alors, ils ne sont pas là tout de suite, les 14, mais petit
au total.
Au bout du compte, ça fait 14. Et effectivement, Élisée... au début, en fait, ils n'ont pas assez d'argent. Donc, c'est le troisième dans la fratrie. Ils n'ont pas assez d'argent. Donc, il est confié aux grands-parents maternels. À la campagne, en Dordogne, à La Roche-Chalais. Et il va vivre de façon assez libre, d'ailleurs, les 7-8 premières années. Il rejoindra après ses parents à Orthez et ses frères et sœurs qui se sont multipliés entre-temps.
Donc il y a un rapport à la nature peut-être qui naît déjà à ce moment-là,
oui,
un rapport
on peut
avec
le
les
dire,
animaux
je pense,
aussi.
Je pense. Il y a un rapport à la fois à la liberté aussi, parce que bon, les grands-parents étaient, voilà, je pense, tenaient moins que ses parents, et puis à la nature, oui.
Et au monde animal ?
Sûrement aussi au monde animal. L'anecdote qui est connue, enfin qu'on connaît quand on connaît un petit peu Élisée Reclus, mais qui est assez belle, c'est il a une affection vraiment pour les animaux et il a été donc assez vite adulte, il devient végétarien.
Et ce qui n'est pas courant quand même.
Ce qui n'est pas courant. Et donc on fait des sauts dans sa vie, on fait des allers-retours là. Donc à la fin de sa vie, il publie un texte dans donc c'est une publication végétarienne belge, et il explique pourquoi il est végétarien et il a 60, je sais plus, il a plus de 70 ans, donc il est très loin de son enfance, mais en même temps pour expliquer son végétarisme. Il repart, il explique, il dit « Moi, je vais vous raconter un souvenir d'enfant. » Et en fait, son souvenir, c'est un moment, donc quelqu'un de sa famille lui demande d'aller chercher un bout de viande chez le boucher, mais le boucher n'était pas un commerce avec une vitrine, comme on peut en trouver aujourd'hui. C'était une cour, en fait, dans laquelle on avait tué l'animal. Donc, il découvre ce paysage, une cour avec du sang, un agneau égorgé, et il s'évanouit. Et c'est le boucher qui le ramène chez lui. Et en fait, bon, moi, je trouve cette scène que je n'ai pas évidemment pas vue, mais qu'il raconte et mais que je me suis représentée vraiment, c'est comme s'il avait, il s'était soustrait en fait à cette réalité horrible. Et puis à la fin, il dit que il se sent à égalité avec cet agneau et il se sent dans une grande communauté en fait. Il se sent vraiment appartenir à la communauté du vivant.
Donc il y a quelque chose de spirituel, quoi qu'il arrive, chez Élisée Reclus, qui vient sans doute des parents, sans doute du père, qui vient aussi du fait qu'il commence ses études par de la théologie, mais bon, il est un peu dissipé avec son frère, ils font le mur, ils se font renvoyer eux aussi, et il y a le passage à la géographie. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible de le dire, de le savoir en tous les cas?
Ils ont tous les deux un goût des paysages quand ils vont. Alors il faut quand même dire ça. Quasi toute la fratrie Reclus est allée étudier à Neuwied en Allemagne dans un collège tenu par des protestants, des frères moraves. Donc ils apprennent les langues étrangères et à un moment, enfin ils reviennent. Élie et Élisée reviennent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils reviennent à pied. Donc, ils font toute une espèce de diagonale pour retourner à Orthez. Et très tôt, en fait, ils ont ce goût des paysages. Bon, ceci dit, il a quand même aussi pris des cours de géographie donc à Berlin. Et là, il a suivi les cours d'un grand géographe qui s'appelle Karl Ritter.
Des méthodes nouvelles.
Oui, qui explore beaucoup. Et pareil, ils ont le même esprit de décloisonnement. La géographie se nourrit de toutes sortes de sciences. C'est pas quelque chose de fermé. Et donc, il suit ses enseignements, mais finalement, quelques mois, pas très longtemps. Mais c'est son choix. Il a envie de, voilà, il a envie de suivre ses cours. Et voilà. Donc il revient avec ce bagage, langue étrangère, géographie, et puis effectivement la théologie à Montauban.
Voir la terre, c'est pour moi l'étude. La seule étude véritablement sérieuse que je fasse est celle de la géographie. Et je crois qu'il vaut beaucoup mieux étudier la nature chez elle que de se l'imaginer au fond de son cabinet. Aucune description aussi belle qu'elle soit ne peut être vraie, car elle ne peut reproduire la vie du paysage, la fuite de l'eau, le frémissement des feuilles, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, les formes changeantes des nuages. Pour connaître, il faut voir. J'avais bien lu des phrases sur la mer des tropiques, mais je ne l'ai pas comprise tant que je n'ai pas vu de mes yeux ces îles vertes et ces traînées d'algues et ces longues processions de nautiles roses et ces grandes nappes de lumière phosphorescente. Voilà pourquoi je veux voir les volcans de l'Amérique du Sud. France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie d'Isabelle Louvio pour parler du géographe Élisée Reclus, père de la géographie. Enfin bon, c'est un peu réducteur, évidemment, il y a beaucoup de pères et de mères à la géographie. Mais enfin, il en fait quand même bien partie. Il fait partie de ceux qui ont, comme ça, modernisé, changé un petit peu la matière.
Ouvert une discipline, parce que c'était quand même un peu, ça tâtonnait quand même. Hein. Bon, il faut quand même parler de son œuvre. Son œuvre géographique, c'est quand même 27 volumes en moyenne, entre 500 et 800 pages chacun. Donc c'est quand même colossal, avec donc les cartes dont je parlais tout à l'heure, 7000 cartes en tout, environ. Donc c'est énorme. Il y a le projet géographique qui commence effectivement dans sa tête, en fait, dès son premier voyage, quand il part en 1853, il part découvrir l'Amérique.
En Louisiane.
En Louisiane, au début en Louisiane. Il a ce projet de il parle de son mistouflet géographique, j'aime bien le terme. Il a un enfant, on va dire, à créer. Et ben cet enfant, il est devenu énorme puisqu'c'est une œuvre colossale. Et donc il a commencé. Il y pense. Et quand il part en Louisiane, puis après en Amérique du Sud, il commence à écrire des choses. Il commence à écrire sur le Mississippi. Il fait un récit de voyage. Et en fait, pour moi, là, vraiment, c'est une sorte d'atelier de préparation à son œuvre géographique. Il s'essaie, mais de façon déjà magistrale, à l'écriture de la Terre. La monographie du Mississippi ou le voyage en Nouvelle-Grenade, ce récit de voyage, c'est une première façon de raconter des bouts de la Terre.
Quoi. La Nouvelle-Grenade, c'est la Colombie d'aujourd'hui.
C'est ça.
Donc à cette époque-là, il a 24 ans à peu
c'est
près.
C'est ça. C'est un tout jeune homme. C'est un tout jeune homme. Alors, peut-être, c'est ça aussi qui est assez frappant, c'est que très tôt... très tôt, il a dit non au père. Très tôt, il a dit non, je ne serai pas pasteur. Très tôt, il est parti. Dans ce voyage. Et ses premiers écrits, c'est pas un petit article comme ça. Tiens, je vais raconter un petit truc sur la Louisiane. C'est je m'attaque à ce fleuve immense qui est le Mississippi. Et puis donc voilà qui est un fleuve très important pour les États-Unis, donc il le remonte, il le détaille. Et puis je m'attaque aussi à une question énorme qui occupe les États-Unis, qui est l'esclavage. Donc là on est en 55. La guerre de sécession, ça se termine en 1865 et donc l'esclavage existe encore. il observe ça, il observe l'esclavage qui a disparu dans certains États et qui demeure dans d'autres, et il analyse cette situation de façon très profonde. Il observe, il lit, il imagine ce que ça pourrait, comment le pays pourrait sortir de cette situation qui est complètement paradoxale, un pays qui s'est construit sur la liberté et qui a encore cette espèce de poison qui circule en lui. Comment s'en sortir ? Et il imagine des scénarios pour sortir de ça, notamment un, alors je le mets dans l'anthologie, notamment un qui est « Et si les esclaves s'évadaient ?» Voilà. Donc il pense les choses, mais encore une fois, et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, pas juste en scientifique, en observateur froid, il pense les choses aussi de façon sensible.
L'humain et la terre, finalement, oui, pour reprendre le sous-titre de votre livre, Isabelle Louviot. Puisque vous parlez de l'esclavage et de l'horreur, le dégoût même que lui inspire l'esclavage, au point qu'il va penser, enfin qu'il va quitter les États-Unis. Donc il y a plusieurs raisons pour cela, mais il y a précisément l'esclavage. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de texte lu par Eric Sénat.
J'ai mes raisons pour filer. Ces raisons sont folles, cela va sans dire. Et c'est justement pour cela que je les aime, car elles sont bien à moi. D'abord, je suis là de manger et de boire, de dormir dans un lit et de frapper sur un gousset rempli, voire même de regarder l'heure sur une montre authentique. J'ai besoin de crever quelque peu de faim, de dormir sur les cailloux et de vendre ma montre pour un morceau de Saint-Jurleur. Certes, tout cela me vaudrait mieux que de voler les nègres qui ont bien gagné par la sueur et le sang l'argent que je mets dans la poche. De répercussion en répercussion, c'est bien moi qui tiens le fouet, et cela ne m'agrée que fort peu. J'ai bien une autre raison. Ainsi donc, la vertu et la morale, mais surtout l'horreur que j'ai pour l'esclavage et l'Église et la chevalerie créole. Tout cela m'engage à décamper au plus vite.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce texte, Isabelle Louviot ?
La liberté. La liberté de la curiosité du monde. La liberté, il n'est pas attaché à ce qu'il a. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il gardera toute sa vie. Il a quasi fait faillite à la fin de sa vie avec sa société de cartographie. Il a envie d'y aller. Il se moque de savoir comment, avec quels moyens. Il est guidé par sa curiosité, par son envie de voir le monde, de le raconter. Et puis aussi sa langue. On entend quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'images. Il a le sens de l'image. Il a une modestie aussi.
Est-ce qu'il y a un rejet de la modernité chez lui ?
Non, pas du tout.
Il dit cette montre, finalement, j'aimerais mieux ne pas la voir.
Ouais, mais c'est pas la modernité là, parce qu'il est très attentif au progrès. Hein. Il est pas du tout nostalgique. Au contraire, il est très ouvert sur ce qui se présente. Non, la montre, c'est plutôt, je pense, une vie réglée. C'est une vie où on prévoit.
Alors, quand il rentre à Paris, c'est un peu fini l'aventure. Il faut quand même trouver un travail.
Ouais.
Ce travail, il va le trouver chez Hachette. Bon, c'est encore dans le domaine des livres parce qu'il va écrire et réviser des guides de voyage. Ouais. Évidemment, hein, on a envie de dire évidemment les guides de voyage.
Ouais. Alors, quand il revient, il parle l'anglais, l'espagnol, l'allemand qu'il a appris à Neuwied. Il a une grande culture, il a voyagé, il a écrit, parce qu'assez vite, son récit de voyage à la Sierra Nevada et ses articles sur le Mississippi et l'esclavage vont être publiés. Moi je l'imagine assez facilement, mais c'est un être vif, je pense séduisant, qui parle facilement, qui a une grande présence. Et donc il a pas de mal à à pénétrer, on va dire, les milieux qui l'intéressent. Voilà.
Et donc, même si c'est peut-être pas son rêve d'écriture, hein, de faire des guides pour Hachette, puisqu'il se met à l'écriture d'un de ses grands livres, L'histoire d'un ruisseau. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre ?
C'est un peu plus tard. Ça apparaît en 1869, c'est un peu plus tard. Effectivement, au début, il commence par des guides de voyage. Il fait, voilà, il les révise ou il les écrit. Et ça, c'est chez Hachette. Et Histoire d'un ruisseau, c'est un autre éditeur, Pierre Jullet Seul, qui le publie. Donc, un autre grande figure éditoriale du 19e siècle. Qui a édité Jules Verne et qui est un des premiers grands éditeurs jeunesse, très intéressé par la pédagogie, la transmission, républicain aussi avec il y a une amitié politique très forte avec Élisée Reclus et qui a lancé donc une nouvelle collection dans laquelle il décline l'histoire d'une cathédrale, l'histoire de toutes sortes de choses. Et il propose à Élisée Reclus d'écrire Histoire d'un ruisseau.
C'est une commande, en réalité.
C'est une commande, oui. Et donc, il va écrire donc Histoire d'un ruisseau, et un peu plus tard, dans d'autres conditions, mais dans la même collection, Histoire d'une montagne. Et en fait, il prend ce motif géographique et il le parcourt. Alors, le ruisseau, assez simplement de son origine, de sa source à la mer, à l'embouchure du fleuve. Mais alors, pas du tout de façon ennuyeuse ou ce texte, comme Histoire d'une montagne, c'est une espèce de on fait un chemin avec un conteur, avec un géographe, avec un historien, avec un
biologiste,
un philosophe,
aussi.
Avec un botaniste, avec un poète, voilà. Et donc on suit ça et on apprend des choses. Alors c'était des livres qui étaient destinés aux enfants, hein, c'était des livres de prix. Donc on suit ce cours d'eau qui n'est pas un cours d'eau précis identifié, c'est une sorte d'archétype en fait, et on le suit avec un grand bonheur parce qu'il y a cette plume, et on le suit par exemple dans un des textes que je propose dans l'anthologie, ça s'appelle Le Bain, et où il raconte le plaisir de se baigner. Donc on retrouve toute la sensualité qu'on avait vue quand il découvre les tropiques. Mais il y a aussi une dimension politique, parce que quand il fait son récit du bain, il raconte comment une petite troupe de soldats arrive au bord de l'eau, enlève leurs vêtements, leurs uniformes bleus et rouges, les laisse en tas, donc le tas bleu et rouge, vont se baigner, donc nus, et batifolent, on peut dire, dans l'eau, sont heureux et sont libres. Et puis, à un moment donné, évidemment, tout ça doit finir, donc ils remettent leurs uniformes et ils repartent. Mais il a capté, on va dire, pendant ce moment, le besoin de liberté et la liberté que procurait l'eau, en fait, et le fait de se baigner sans vêtements. Il aimait beaucoup se baigner nu, sans vêtements, et donc avec juste son corps et son être, son plaisir, d'être dans l'eau.
Je vous propose d'écouter, non pas cet extrait, mais un autre extrait de l'histoire d'un ruisseau.
L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de lune les a vaguement irisées. La foudre en a fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Puis d'un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l'atmosphère et de l'espace, toutes les forces cosmiques, ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle est aussi un monde, comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle, par un mouvement sans repos.
Et l'histoire d'une montagne, alors, Isabelle Louviot, ça a été plus compliqué à accoucher de ce livre.
Oui. Histoire d'un ruisseau, c'est 1869. Histoire d'une montagne, c'est 1880. Entre les deux, il s'est passé une chose énorme, c'est que il y a eu la Commune, que Élisée Reclus a participé à la Commune, a été assez vite arrêté. Au mois d'avril 1871, il est arrêté et emprisonné pendant presque 10 mois. Et il va cheminer dans 14 lieux d'emprisonnement différents, avec des trahisons, des périodes comme ça très tendues. Les choses sont pas simples, voilà. Et il commence un petit peu à écrire, alors, en prison, hein, Histoire d'une montagne, mais à un moment donné, il dit non, c'est pas possible, je peux pas écrire Histoire d'une montagne.
Alors, il avait déjà essayé de l'écrire avant, mais il y a aussi des drames personnels dans sa vie.
Oui, alors, il avait une première femme, Clarisse Briand, avec laquelle il s'était marié en 1864, et qui meurt en 1869. Et puis il y a la guerre, la guerre de 1870, la Commune, et tout ça empêche en fait la création de Histoire d'une montagne. Finalement, il va l'écrire, et le début d'Histoire d'une montagne, que moi j'aime beaucoup, il raconte comment en fait, arrivant dans la montagne, avec toutes ces épisodes, avec en tête tous ces épisodes noirs qu'il a vécu, comment la montagne, en fait, par une sorte de miracle, lui redonne goût à la vie, comment il, simplement en observant son immensité, en se sentant enveloppé par elle, en observant l'herbe, comment il revit d'une certaine façon, et il l'écrit, c'est le début du texte. Mmh. Donc il y a quelque chose de... Il n'hésite pas du tout à s'épancher, en fait, dans des textes qui croisent la science, mais aussi l'émotion et la poésie.
C'est ça la grande leçon d'Élisée Reclus, en fait. La géographie, ce sont des sentiments, c'est la vie des gens qu'on croise, mais c'est aussi notre vie à nous. Mmh. Et c'est comment tout cela résonne, finalement, ensemble.
Oui, comment dire... j'ai dit tout à l'heure qu'il était un, il avait une c'est très frappant dans tous ces récits de voyage ou quand on le sent planté devant un paysage, c'est un homme qui observe encore une fois une réalité géographique avec des aménagements éventuellement faits par l'homme souhaitables ou existants. Enfin voilà, il observe des choses comme ça et en même temps. Il peut parler du vent, il peut parler de l'herbe qu'il a à ses pieds, il peut parler de... En fait, il n'oublie jamais son corps quand il fait de la géographie.
Y compris dans l'effort qui consiste à gravir des montagnes.
Oui, c'était un grand marcheur.
Dans les montagnes du Dauphiné et de la Provence, les pentes, aujourd'hui si nues pour la plupart, étaient autrefois recouvertes d'arbres. Et de plantes diverses qui retardaient les eaux superficielles provenant de la pluie ou de la fonte des neiges, absorbaient une grande partie de l'humidité tombée et retenaient la couche de terre végétale sur les assises friables du rocher. Je dois vous expliquer que pendant le cours des siècles, les arbres ont été coupés par des spéculateurs avides et par des agriculteurs insensés qui voulaient ajouter quelques parcelles aux champs de la vallée et aux pâturages des sommets. Mais en détruisant la forêt, ils ont détruit le territoire lui-même. On peut y aller pour vérifier. Vous verrez. L'eau, n'étant plus retenue sur les pentes par les racines des arbres, descend rapidement dans la vallée en poussant devant elle les débris arrachés au flanc de la montagne. Peu à peu, toute la mince couche de terre végétale est enlevée. La roche nue se montre. De profonds ravins se creusent dans les escarpements et sont parcourus en temps de pluie par des torrents furieux qui, jadis, n'existaient pas. On s'étonne des inondations, mais l'eau qui pénétrait lentement la terre et portait des sels fertilisants aux racines des arbres ne sert plus qu'à dévaster. L'homme est responsable de son avenir, le bûcheron comme le banquier, le pêcheur comme le navigateur. Et lorsqu'un bûcheron ne reboise pas et ne fait que couper, il a droit de demander des comptes à son patron, à son gouvernement.
«
Géographie à la carte sur France Culture. On parle du géographe Élisée Reclus avec vous, Isabelle Louviot. Ce texte, c'est vraiment un manifeste totalement actuel. On pourra dire à la fin de cette émission en quoi il est toujours actuel, c'est vrai, Élisée Reclus. Mais là, il y a quelque chose de proprement visionnaire dans la manière dont il explique les liens, finalement, entre, d'un côté, les besoins de financement, d'exploitation, et puis, de l'autre, la transformation de la montagne et qui crée des désastres écologiques. C'est ça la pensée écologique de Élisée Reclus.
Alors, petite mise au point. Le mot écologie ne prononce
pas. C'est un anachronisme.
Non, parce que le terme existait, mais lui ne le prononce pas. Bon. En revanche, il dit à plusieurs reprises que l'homme est un agent géologique. C'est-à-dire que l'homme. Donc, ça fait vraiment écho avec l'Anthropocène dont on parle aujourd'hui. L'homme agit sur la Terre, mais de façon positive ou négative. Et donc, il l'observe très bien. Il n'est pas tout le temps critique de façon négative. Il observe des aménagements qui sont souhaitables, mais aussi des déboisements qui ne le sont pas. Et en fait, tout ça, c'est relié par l'idée que l'homme a vit sur Terre, donc est porté par la Terre, et en même temps a une responsabilité par rapport à elle, une responsabilité y compris pour la garder belle, mais pas juste pour des questions esthétiques. Enfin, là, il y a une dimension un peu éthique, mais aussi pour que lui puisse continuer à vivre et pour que le vivant et la Terre de façon globale puisse continuer à vivre. Donc il a des préoccupations très fortes qui dépassent très largement sa propre vie, et en ce sens-là il est vraiment visionnaire, c'est-à-dire qu'il a une vision du temps long, comme il a une vision du temps ancien aussi, et il a pour lui, et c'est une des choses aussi qui me frappe beaucoup, c'est-à-dire qu'il se vit dans son siècle, il l'observe, et en même temps il a une conscience d'être humain énorme, d'être humain qui appartient de façon essentielle à la Terre et à une responsabilité par rapport à elle.
Mais le terme d'écologie, encore une fois, il ne l'utilise pas, et c'est important pour vous de le préciser. S'il ne l'utilise pas, il y a une raison à cela.
Je sais, il y a des débats là-dessus, en fait, parce que le mot écologie, aujourd'hui, a tellement de connotations qui sont pas... Enfin, voilà, donc c'est un débat là-dessus.
C'est pas la même écologie, peut-être.
Voilà, ouais. Mais si on dit, on va simplifier sans rentrer dans, mais si on dit que l'écologie c'est un souci du rapport harmonieux entre l'homme et son environnement, oui, il est écologiste, enfin, c'est sûr. Bon, pas au sens aujourd'hui où on peut entendre, voilà, mais il a une préoccupation écologique forte. Et voilà.
Est-ce que cette écologie serait une écologie politique ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est en fait, il a. Je tourne autour de cette même idée, c'est qu'il y a une unicité, on va dire, chez lui. C'est-à-dire que il est géographe, mais il est aussi anarchiste. C'est-à-dire que sa vision politique est complètement reliée aussi à sa façon de regarder la Terre, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est l'être humain aussi, hein, qui est au cœur de ça, et le vivant qui est au cœur de ça. C'est-à-dire que il fait pas de catégorie, il fait pas de cloison.
C'est quoi regarder la nature en anarchiste, Isabelle Louviot ?
Ah, c'est une grosse question. On l'entend un peu là dans l'extrait qui a été lu. C'est avoir une conscience et une responsabilité de ce qu'on fait. De ce qu'on fait, y compris individuellement. On abat des arbres. Est-ce qu'on abat des arbres simplement pour répondre à un patron qui dit qu'il faut abattre les arbres ? Ou alors, on sait pourquoi on fait ça, et quelle vertu ça a, ou quel danger ça a ?
Donc on peut peut-être les abattre, c'est pas forcément...
Non, on peut tout à fait abattre. Après, ça dépend pourquoi on le fait, quels sont les effets, à quelle échelle. Mais c'est une... Je pense que ce qui relie tout ça, et c'est la question de la conscience, en fait. Pourquoi on fait les choses ? Au nom de quoi on les fait ? Et quelle conscience on a quand on agit, en fait ?
Et c'est ça qui le conduit à s'engager pendant la Commune, du côté des communards.
Alors, oui, alors il est engagé, il fait partie de la Première Internationale qui s'est créée en 1864. Il a déjà des engagements, alors républicains, c'est sûr, et il voit la Commune comme une expérience unique, ce qui est pas faux, qui était brève, mais unique de prise de pouvoir. Et de responsabilisation de chacun dans une organisation sociale et politique.
Est-ce que c'est un leader? Est-ce qu'il l'emmène avec lui? Parce que c'est, je ne sais pas s'il a dans déjà la notoriété.
Non. Dans la Commune, non. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il a été un parmi d'autres. Il revendique pas de... Il a été... il a pris les armes, et il les a pas utilisées, mais il a pris les armes, il a marché un peu dans une organisation qui était pas très au point, et il s'est fait arrêter assez vite en fait. C'était un combat qui avait un sens pour lui. La création de d'organisations, on va dire à échelle humaine, c'est-à-dire de petites organisations où chacun pouvait prendre la parole. C'était des choses qui étaient une démocratie, on va dire, à une échelle pas à l'échelle de l'État en fait, à une échelle plus restreinte, pour que chacun puisse vraiment s'engager et avoir une responsabilité.
Donc sa célébrité, elle vient en partie justement du moment communard.
Non, parce qu'il était déjà connu là, puisque quand il avait déjà publié hein, La Terre, c'était publié avant la Commune. Donc il avait déjà des publications. Il était connu comme savant. Et d'ailleurs, à la fin de, donc quand il est emprisonné et qu'il est une première fois condamné, la condamnation sera levée, il y a une pétition de savants qui se mobilise, y compris Darwin. Donc, ça dit quand même la valeur et la célébrité qu'il avait, en tout cas dans la communauté scientifique.
Est-ce que c'est pour cette raison, parce qu'il est célèbre et qu'il a une forme d'influence, que dans les mois qui vont d'avril 1871 à février 1872, c'est-à-dire pas un an, il est transporté de prison en prison? Et il en fera 14 quand même. Pourquoi? On a peur qu'il parle trop avec les prisonniers.
Non, il y a déjà le fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en prison et il n'y avait pas assez de prison. Donc il y avait déjà un problème, on va dire, pour le dire un peu froidement, logistique. Il y avait beaucoup trop de prisonniers, donc il y avait déjà ça. C'était pas forcément lié à lui. C'est qu'il fallait les caser. Et à un moment, effectivement, il est changé de prison parce qu'on a l'impression.
C'est du prosélytisme quand même.
Il enseigne, il donne des cours de géographie, des cours de langue. Sûrement, il doit pas avoir sa langue dans sa poche. Il est connu. Donc à un moment, il est déplacé, mais c'est pas ça qui justifie tout le cheminement des 14. C'est vraiment aussi parce que où les caser. Donc là, aujourd'hui,
il est déplacé. Donc à Versailles, à Chatou, à Kellerne, à Brest.
Ouais, y compris un chenil. Enfin, c'est des conditions assez abominables qui décrit très bien dans un ouvrage qui est paru après la Commune, hein, où il fait la liste, il égrène les 14 lieux. Et
ça s'appelle Géographie carcérale.
Bah, ça, c'est moi qui ai donné le titre.
Ah, c'est vous. On a quand même l'impression qu'il a besoin, même au fond du trou, ouais, de décrire la réalité telle qu'elle est autour de lui.
Oui, je pense.
Oui. Alors, évidemment, il y a le moment où quand même il est question de le faire sortir. Il reçoit la visite du ministre de l'Instruction publique, donc on s'occupe quand même un peu de lui. Et là, il est droit dans ses bottes, il refuse de le recevoir. Il est vraiment souverain dans sa prison. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Isabelle Louviau?
Comment ça, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc il refuse vraiment parce qu'il estime qu'il a... Il a rien à demander. Il est prêt à faire son voilà. Il est prêt à être voilà faire.
Il est libéré à un moment donné. Alors.
Ah oui, bien sûr. Donc après, il est libéré en 1872. Il est condamné à l'exil donc il s'exile en Suisse.
À cause des montagnes. On peut l'imaginer en tous les cas.
Les montagnes. Une forme de paix.
Ouais, tranquille au milieu de l'agitation du siècle.
Ouais.
Et la montagne est une muse, c'est un peu un cliché, mais enfin, il y a quelque chose de vrai quand même là-dedans.
Oui, je pense que c'est un élément géographique très fort pour lui. Dans les guides de voyage, les guides touristiques qu'il a écrits au début, il a beaucoup parcouru les Alpes pour les écrire. Quand il est allé en Sierra Nevada de Sainte-Marthe, il y avait aussi une montagne immense qui plongeait dans la mer des Antilles. La montagne, c'est un motif géographique qui lui tient vraiment à cœur. Aussi parce que, et ça c'est un des beaux chapitres comme ça dans l'histoire d'une montagne, c'est aussi des lieux de repli, c'est des lieux de résistance aussi, hein, ça on l'a vu après. Mais c'est aussi des lieux où vivent, alors bon, ça c'est un des chapitres que j'aime beaucoup dans l'histoire d'une montagne, des populations très singulières qu'on appelle, qu'on a appelé à ce moment-là les crétins, et qui étaient des gens qui avaient des problèmes de thyroïde, qui avaient des goitres, et qui étaient un peu débiles. Mm-hmm. Mais il raconte plusieurs choses, plusieurs anecdotes, plusieurs rencontres avec ces dix crétins. Et en fait, il lui donne des leçons de vie par leur modestie, leur simplicité d'être, quoi.
Ouais. Le dernier exil, c'est la Belgique. Mm. Ça se passe pas forcément très très bien. Il va y rester de 1894 à 1905. Au départ, il est appelé par l'université. Et puis, l'université va avoir des éléments à l'intérieur qui le rejettent. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Isabelle?
Oui, alors là, il y a une espèce de grand cafouillage. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on lui dit « venez enseigner chez nous ». Donc, il est content, il est prêt à y aller. Et en même temps, à ce moment-là, donc dans les années, au début des années 1890 en France, il y a un certain nombre d'attentats anarchistes. Et son nom circule, le nom de son neveu aussi circule, son domicile est perquisitionné.
Notamment, on pense qu'il est dans la mouvance d'Auguste Vaillant qui a jeté une bombe dans la chambre des députés, un certain nombre de blessés. Ça n'est pas le cas en réalité.
Non, pas du tout. Mais son nom circule et du coup, l'université belge se dit que c'est peut-être pas très... C'est pas très bien d'avoir quelqu'un comme ça d'aussi qui se fait remarquer comme ça. Donc retire sa proposition, ce qui ne manque pas de. Enfin,
il souligne
que c'est pas très élégant.
Oui, ni très élégant.
Mais du coup, l'université va éclater. En fait, il va y avoir une scission et il y a une nouvelle université libre qui va se créer et dans laquelle il va enseigner.
Oui. Donc il a beaucoup appris à ses élèves. Il était un enseignant attentif. Ça nous fait une transition pour parler de vos enfants qui vous posent parfois la question, mais finalement, ton Élisée Reclus, qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous répondez à vos enfants qui vous posent cette question? Vous le racontez dans le livre.
Ce qui est très frappant chez Élisée Reclus dans tous ses écrits, c'est à la fois quelqu'un qui observait le monde, qui s'en nourrissait, qui le racontait, et en même temps qu'il gardait au-dessus de ça un idéal, un idéal de joie, de bonheur, on va dire, auquel il travaillait lui individuellement. Et il était très attaché au fait que chacun, et ça c'est, on retrouve la dimension de l'anarchiste individualiste, que chacun travaille sur lui-même, au service de son idéal, y compris sur des toutes petites choses. Donc voilà.
Un engagement individuel pour le bien de tous. Merci beaucoup Isabelle Louviau de nous avoir raconté aujourd'hui la vie et l'œuvre du grand géographe Élisée Reclus. Pour aller plus loin, pour découvrir des textes de Reclus, pour voir aussi les très belles illustrations que Georges Peignard a fait de ce livre, eh bien, on peut se procurer votre ouvrage Élisée Reclus, Penser l'humain et la terre, c'est aux éditions du Tripode. Géographie à la carte, c'est Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis, Mathieu Garrigou-Lagrange et ce soir à la console Alex Dang. Retrouvez-nous en podcast, n'hésitez pas à fouiller dans nos archives pour trouver les sujets qui pourraient le plus vous intéresser.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Christophe Colomb, quoi de nouveau sous le soleil?
Xavier Mauduit.
Allez, ICO à bord de la Pinta, de la Niña et de la Santa Maria. C'est une histoire qui s'écrit avec du courage, mais aussi avec beaucoup de certitude. C'est une aventure qu'il s'agit de replacer dans une histoire plus large, celle d'un nouveau rapport au monde.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. En partenariat avec le hors-série du Parisien, Les Grands Explorateurs.
L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes.
Guillaume Erner.
Ce sont les matins de 7h à 9h.
Les matins de France Culture, du lundi au vendredi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et la semaine prochaine, dans Géographie à la carte, nous parlerons de la manière dont le financement des opérations immobilières fixe les normes et aussi les formes de la ville. Sujet qui paraît un peu technique, mais qui est passionnant, vous l'entendrez. France Culture, 22h. L'heure du journal avec vous, Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Mathieu, Garrigou Lagrange, et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'arrestation en Russie d'un journaliste américain accusé d'espionnage. Ridicule, tense Washington. L'Union européenne dénonce le mépris systématique de Moscou pour la liberté de la presse. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, jugé pour diffamation, écope d'une peine de prison avec sursis et pourra ainsi se présenter à la prochaine présidentielle. Décryptage à Dakar de Théa Olivier. En France, l'actuel président présente un plan haut, plan de sobriété. Ses principales mesures avec Étienne Monin, invité de ce journal Philippe Jougla, délégué à l'eau au sein de la FNSEA et puis réaction du porte-parole de la Confédération paysanne Nicolas Giraud. Enfin, retrouve ton cap, c'est le titre du dispositif de prévention contre l'obésité des enfants de l'assurance maladie. Plus de 15% des enfants sont déjà en surpoids, précision de Ninog Louis.